Je vous salue chacun dans le nom de Jésus-Christ que nous avons déjà célébré. Je me disais en écoutant ces chants, Seigneur, si vraiment tout ce qui a été chanté, proclamé des bouches, fait son œuvre dans les cœurs, notre communauté et tous ceux qui sont là, il va y avoir des grandes transformations dans les vies. Quand nous proclamons ces choses de la bouche, sa seigneurie, sa grâce, le désir de le suivre, de marcher dans ses pas. Si cela se met en pratique, eh bien, il y aura des changements. Je me suis converti à Christ il y a 15 années, c'est peu pour certains, d'autres déjà beaucoup, et cela a vraiment illuminé mon cœur. Tout était changé. Vous savez, l'expression qui me vient comme un paysage après la pluie. Tout est clair, tout est net. J'avais l'assurance que j'avais rencontré la vérité. Je ne posais plus la question comme Pilate, qu'est-ce que la vérité ? Je connaissais la vérité, je n'étais plus le même. La vérité, connaître la vérité, toute la Bible nous y invite, hein. Vous connaissez cela, je suis, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Il est d'ailleurs l'Esprit de vérité. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et puis on pourrait continuer ainsi. La vérité, les chrétiens en parlent beaucoup, la proclament beaucoup. Pour beaucoup, connaissent dans leur tête la vérité. Et puis dans mon parcours, dans la marche chrétienne, je vais vous dire une chose, frères et sœurs, ça va peut-être choquer, un pasteur qui a été déçu. Déçu, oh, pas par le monde, ça a été réglé rapidement. Le monde est déjà jugé, il n'y a pas à être déçu par le monde. Quand on a rencontré Christ, on a compris pourquoi on pourrait être déçu par le monde, mais par des chrétiens, par des hommes, des femmes se disant chrétiens, des frères et sœurs, je ne mens pas. Cela vous choque peut-être, mais c'est ainsi. Parce que j'ai rencontré des chrétiens dans mon enthousiasme, j'ai rencontré des chrétiens désabusés, qui avaient vécu des choses difficiles. D'autres que je trouvais bien tolérants avec le péché. D'autres bien libéraux avec les doctrines. Et puis surtout, et notamment dans le ministère, tant d'hommes et de femmes, se disant chrétiens, proclamant la vérité, et pris dans des situations inextricables, je ne parle pas de situation de persécution pour le nom de Jésus-Christ, parce que là, alléluia, mais dans des situations inextricables, et force est de constater souvent par ignorance ou refus de la parole de Dieu. M'ouvrant à un frère un jour de cette question, il m'a dit un mot, Robert, t'es un idéaliste. Et en fait, idéaliste, je ne sais pas ce que ça évoque pour vous, mais c'est quand même bien d'avoir des projets, des rêves, des choses élevées. Sauf qu'aux yeux de Dieu, l'idéaliste, ça veut dire mon idée et pas la sienne. Et l'idéaliste, c'est un impatient. Il pense que c'est lui qui va faire l'œuvre. Sur le moment, ça a été difficile, mais j'ai dit oui, c'est vrai. C'est pas moi qui suis mort à la croix, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Et tant qu'on ne l'a pas accepté, eh bien, rien ne change. Mais je me dis, mais pourtant, dans notre assemblée, il me semble... C'est pas il me semble, je crois vraiment que nous nous attachons, les prédicateurs, à prêcher la parole de Dieu avec droiture. Je le crois, en tout cas, sincèrement. Alors, mais Seigneur, ça devrait changer. En fait, j'ai réalisé que nous connaissons la vérité selon les Écritures. Mais avons-nous accepté que toute la vérité que nous révèle l'Écriture descende dans nos cœurs, au fond de notre cœur. Je vais plus loin. Aimons-nous la vérité. Et le titre de mon message, c'est « Connaître la vérité, c'est une chose. Être vrai, c'en est une autre. » On peut connaître la vérité et ne pas être vrai. Alors, je voudrais que nous méditions un peu là-dessus. Nous avons, j'y reviendrai, nous avons proclamé que Dieu est bon, et je vous confirme, Dieu est bon. Dieu est bon. Mais il est aussi vérité. C'est pas mais, et il est aussi vérité. Je vous propose, nous allons lire, alors ça va faire un peu de lecture, mais dans 2 Samuel 11, je voudrais partir de ce qui s'est passé dans la vie de David avec cette histoire de Bathsheba. Je vous rappelle, parce que ça on ne va pas le lire, au temps de la campagne où les hommes étaient à la guerre, David lui était resté dans sa maison. L'Écriture laisse entendre que peut-être il n'était pas tout à fait à sa place. Et un soir sur la terrasse, il faisait beau comme en ce moment, il a vu, il a convoité, il est tombé. Il avait la puissance, il était roi, hein, il n'était pas dans le désert ou dans les grottes là. Hein. Il régnait sur tout Israël, il a vu Bathsheba, il l'a fait venir, il a couché avec. Premier épisode. Il a donc dû voir que ça n'allait pas tout à fait, parce qu'il s'est dit, c'est pas le tout, il risque de tomber enceinte. Je vais donc faire revenir son général de mari pour un week-end en permission. Je lui accorde une permission spéciale, il en avait le pouvoir. Il le fait donc, espérant qu'ainsi, le mari passant une nuit avec sa femme, il pourrait porter, si j'ose dire, le chapeau de la paternité. Mais le mari zélé dit non, il n'est pas question que je vienne me prélasser là et jouir de ma famille, tandis que mes hommes sont à la guerre. David, ça ne l'arrête pas, il le fait boire. Il dit, un homme qui a bu souvent quand même, ça se relâche un peu. Il le fait boire, mais cela ne se fait pas. Croyez-vous que David va arrêter? Non. Du coup, il va faire en sorte que Uri, le mari de Bathsheba, soit tué au combat. Il confie pour cela à un messager une lettre pour Joab, chef général des armées, lui dire « expose Uri au combat ». Uri est exposé au combat, Uri meurt. Joab n'est pas très bien. Il a beau être général commandant les armées, il a bien vu que l'affaire n'était pas claire. David ne s'arrête pas. Il lui dit, mon garçon, ne t'inquiète pas pour ça. Des fois, les uns gagnent, des fois, les autres perdent. Bon, bah, aujourd'hui, Uri a perdu. On ne va pas en faire une affaire d'État. Et David continue de régner. Nous en sommes là, dans le passage que nous allons lire en 2 Samuel 11. 2 Samuel 11, nous allons prendre au verset 26. Jusqu'au chapitre 12, verset 25. Peut-être pas, on va voir. 2 Samuel 11, verset 26, la femme d'Uri apprit que son mari était mort et elle pleura son mari. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Vous avez bien retenu l'histoire que je vous ai racontée. Hein. Il y a une petite phrase intéressante là. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Surprenant. L'Éternel envoya Nathan vers David et Nathan vint à lui et lui dit « Il y avait dans une ville deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait, elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il le regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis et à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, « L'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. » Et Nathan dit à David, « Tu es cet homme-là. » Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein des femmes de ton maître. Je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Hessien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Hessien, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elle à la vue de ce soleil, car tu as agi en secret et moi, je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. » Et Nathan s'en alla dans sa maison, l'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David, il fut dangereusement malade, David pria Dieu pour l'enfant et jeûna, et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre, mais il ne voulut point, il ne mangea rien avec eux. Le 7e jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort, car ils disaient « Voici, lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé, il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire « L'enfant est mort, il s'affligera bien davantage. » David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux, et il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs « L'enfant est-il mort ?» Et ils répondirent « Il est mort. » Alors David se leva de terre, il se lava, soignit, et changea de vêtements, puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui servît à manger, et il mangea. Ses serviteurs lui dirent, « Que signifie ce que tu fais ? Tandis que l'enfant vivait, tu jeûnais et tu pleurais, et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. » Il répondit, « Lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais, car je disais, « Qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi et si l'enfant ne vivra pas ? Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je ? Puis-je le faire revenir ? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. » David consola Bathsheba, sa femme, et il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Elle enfanta un fils qu'il appela Salomon et qui fut aimé de l'Éternel. Il le remit entre les mains de Nathan le prophète, et Nathan lui donna le nom de Jédija à cause de l'Éternel. Nous allons lire également le psaume 51, les versets 1 à 14. Psaume que nous connaissons bien, le psaume dit de repentance de David, jusqu'au verset 14. Au chef des chants, psaume de David, lorsque Nathan, justement, le prophète, vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint, rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Je voudrais encore lire dans Éphésiens 4, les versets 17 à 24. Éphésiens 4, versets 17 à 24. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Alors, quelques enseignements à partir de cette expérience de David. Je voudrais d'abord souligner que cette histoire de David ne survient pas au début de sa vie, j'allais dire de sa vie chrétienne, de sa vie de croyant. David a été oint, il a traversé de grandes épreuves, il a eu le soutien de Dieu, c'est un homme selon le cœur de Dieu, il a supporté des iniquités incroyables de la part de Saül, il a été calomnié, c'est une figure de Christ quelque part, David, sur certains aspects. Cet épisode survient, j'allais dire, chez un chrétien mature. David, à ce moment-là, règne non pas sur les deux premières tribus, mais sur tout Israël, c'est indiqué dans un passage tout à fait avant. C'est donc quelqu'un dans le ministère, on pourrait dire, qui connaît cette chute. Donc quelqu'un qui a la connaissance de la vérité et qui a marché quelque part dans la vérité. Comment une telle personne peut-il être entraîné dans un tel processus que nous avons décrit tout à l'heure? Je ne vais pas reprendre en détail, mais c'est invraisemblable cette histoire. Comment se fait-il? C'est comme si à un moment les écoutilles sont fermées et il s'avance dans un truc de fou, excusez-moi l'expression. C'est une folie, c'est une folie. C'est en même temps ce que nous décrit Jacques, hein, le processus de la tentation qu'on laisse prendre. Vous savez que le péché au début c'est bon, mais à la fin ça produit de la mort. Pourtant, il a eu d'autres tentations, David. Tentation de prendre le pouvoir, il aurait pu tuer Saül, il aurait pu... des choses incroyables. Ça nous dit au passage que la sexualité, il faut veiller. C'est un des péchés pour lesquels le Seigneur dit « Fuyez l'impudicité, hein, n'essayez pas de résister, c'est trop fort. » Il utilise un pouvoir abusif, de manière abusive. Il corrompt des consciences de ses collaborateurs, c'est extrêmement grave. Comment s'enfonce-t-il dans le mensonge? On pourrait dire le cynisme. Alors jusqu'à expliquer à Joab que la guerre c'est ainsi, l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre, comme s'il n'était pour rien. David est enfermé dans son mensonge. La Bible nous parle, à plusieurs endroits, de l'esprit de mensonge. À un moment, quand on va trop loin, Dieu enferme. On a vu Pharaon dans sa résistance, on voit Akab, et quelque part dans ce processus, il est pris dans la folie. Et le voilà enfermé dans le mensonge. Il ne peut plus s'arrêter. Il se ment à lui-même. Le texte nous le montre, puisque tous ses stratagèmes montrent qu'il essaye de cacher, de cacher, de cacher, de cacher. Et il poursuit sa vie comme si de rien n'était. Il y a un temps, des fois, comme ça, dans la vie, où il y a le péché qui est venu, quelque chose qui est installé, et on ne s'en sort plus. Proverbe 30, verset 20, verset qui est terrible. « Telle est la femme adultère, la voix de la femme adultère. Elle mange, elle s'essuie la bouche, puis elle dit, je n'ai point fait de mal. » ce que fit David déplut à l'Éternel. Ça veut dire qu'on peut être croyant, né de nouveau, avoir même reçu les dons, enfin bref, servir. Et nous pouvons être pris. Ça ne se fait pas d'un seul coup. Il y a un processus, on y rentre. Mais il faut le savoir. Que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. Il y a à un moment l'intervention de Dieu, la confrontation. Cet homme, c'est toi. C'est extrêmement, on pourrait dire, brutal, dans un monde où il faut prendre les rondeurs pour dire tout un tas de choses. Nathan, figure du Saint-Esprit, dit clairement, c'est toi. Là aussi, quelque chose de surprenant, David, ce qu'il a commis, ne change pas son système de pensée. David est un homme épris de justice et prêt à réagir avec virulence lorsqu'une injustice est commise. On lui raconte, Nathan lui raconte cette parabole du pauvre monsieur qui avait sa femme, grosso modo, et un riche propriétaire qui avait plein. Et le riche propriétaire, quand il a besoin d'une brebis, il va la piquer, il utilise son pouvoir, il va la piquer. Et là, je crois que la réaction de David, elle est sincère. Il y a dans son système de pensée, mais c'est bien dans sa pensée, il y a comme une schizophrénie en lui. Il a commis ce qu'il a commis, il s'est enferré dans des trucs pas possibles. C'est comme s'il n'y pensait plus. Par contre, il est prompt à s'enflammer parce qu'une injustice a été commise. Cet homme mérite la mort. Il a le boomerang. La vérité, d'un seul coup, ça déclenche la vérité chez lui. Cet homme, c'est toi. Alors là, nous voyons David, un homme de Dieu. Un homme selon le cœur de Dieu. L'intervention de Dieu, la conviction du Saint-Esprit provoque immédiatement chez lui un effondrement et une reconnaissance, une acceptation de la vérité. J'ai péché contre l'Éternel. Et vous notez que, mais ce n'est pas mon propos aujourd'hui, que le pardon de Dieu est immédiat. J'entends bien le pardon de Dieu. L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. Ça, c'est l'expérience chrétienne. J'ai péché, je découvre ma vie. Dieu dit, tu ne pardonneras pas. Notez que dans le texte, David ne mourra pas. Merci Seigneur, tu ne nous as pas consumés, détruits. Mes frères et sœurs, il y a des conséquences, des péchés pardonnés. Il y a des conséquences dans nos vies. C'est encore ça, quelque chose qu'il est bon de rappeler. Donc voilà un homme qui sait, ça doit nous parler, parce que nous sommes des hommes et des femmes de la même nature que David, de la même nature qu'Élie. Mais ça heurte notre pensée quand même, c'est pas possible. On ne peut pas avoir commis ça et puis ne pas reconnaître, et avoir commis ça et en même temps s'insurger contre la justice. Si, c'est possible. Mais pas un chrétien. Si, c'est possible. C'est possible. Il y a plusieurs passages dans la Bible, je vais vous en donner un autre. Dieu parle, il nous reprend. Un passage qui dit, un homme qui mérite d'être repris et qui résiste peut être brisé soudainement et sans remède. Alors moi je crois qu'il y a encore un remède parce que nous connaissons le Dieu de grâce, mais il peut se passer des choses lourdes, graves. Le diable a le dos large, parfois. Il est méchant, il veut nous détruire, d'accord. Mais on a quand même les moyens, parce que Dieu nous a révélé, par la connaissance, il est important de connaître. Je ne dis pas qu'il est important, qu'il n'est pas important de connaître, mais ce qui est plus important, c'est ce que nous connaissons, de le vivre. Et c'était ça le problème de David. Il connaissait ce qui l'amenait, d'ailleurs il était bien éduqué, il avait il connaissait la parole, il avait été enseigné dans les voies de Moïse, il connaissait la loi, il s'attachait, il était attaché à Dieu, aucun doute. Mais tout cela, ça avait construit un système de pensée, justice, mais ça ne l'avait pas empêché, il faut bien le souligner, de commettre ce qu'il avait commis. Le psaume 50, verset 16, « Et Dieu dit aux méchants, quoi donc, tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche ? Toi qui es les avis, toi qui es les avis, je sais, je connais toute la parole. Je suis avec Dieu, Dieu me parle. » Oui, Dieu parle, je dirais. Dieu parle, oui. Mais des fois, ce n'est pas Dieu aussi. « Toi qui hais les avis, est-ce qu'on aime les avis ? Et qui jette mes paroles derrière toi, si tu vois un voleur, tu te plais avec lui et ta part est avec les adultères, tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie, tu t'assieds, tu parles contre ton frère, tu diffames le fils de ta mère, voilà ce que tu as fait, je me suis tu. » Je pense que David, c'est la même histoire. Ce que fit David déplut à l'Éternel. Alors des fois, on croit que parce que Dieu ne réagit pas tout de suite, parce que pour l'instant, le Seigneur n'est pas sur cette terre, la justice n'est pas exercée immédiatement. On croit que ça va bien. Voilà ce que tu as fait. Et je me suis tu. C'est pas, j'ai pas vu. Je me suis tu. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Prenez-y donc garde, etc., etc. Ce qu'a fait David va avoir des conséquences aussi. Notez la motivation de Dieu. Des choses vont arriver, il y a des conséquences à ce qu'il a fait, parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel. Frères et sœurs, connaître la vérité est une chose, être vrai en est une autre. Témoigner est une chose, être témoin en est une autre. Ce que nous sommes, ce que nous manifestons, compte encore infiniment plus que tout ce que nous pouvons expliquer comme connaissance biblique. Que notre conduite ne fasse pas blasphémer ceux qui ne connaissent pas Dieu, parce qu'ils nous observent. Et le regard est aiguisé. Alors, l'acceptation de la vérité. La vérité, elle n'est pas faite simplement pour être connue. Elle est faite pour être acceptée, reçue, saisie, installée, pas dans une case de la tête, au fond du cœur, au fond du cœur. Tu veux, l'Éternel veut que la vérité soit au fond de notre cœur, parce que c'est alors et c'est de là qu'elle produira un changement réel et profond. Et cela, c'est l'œuvre de Dieu. Fais donc pénétrer. Vous voyez, tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer ta sagesse au-dedans de moi. Enregistrée dans ma tête, je sais faire. Que la sagesse de Dieu, que la vérité pénètre au fond de mon cœur, il faut que Dieu le fasse. Ce psaume 51 est souvent utilisé et prêché concernant la conversion, la repentance initiale, et cela est juste après tout. Il y a effectivement cette œuvre du Saint-Esprit qui convainc de péché avant de convaincre de justice. Mais remarquons que ce qui nous est rapporté là concerne un homme choisi par Dieu et qui est pleinement entré dans son appel. Il s'agit du roi David qui règne sur tout Israël. Il n'y a pas opposition en cela. La nouvelle naissance opère un premier brisement de nos cœurs endurcis et nous ouvre la possibilité d'être enseignés. Je crois que c'est ça que fait la nouvelle naissance. La nouvelle naissance nous permet, cette fois-ci, d'exercer notre volonté. Elle ne nous rend pas comme des zombies, téléguidés. Au contraire, la nouvelle naissance nous révélant la vérité nous met en mesure, maintenant, de choisir. Et donc, c'est une grande responsabilité. Tant que nous étions morts dans nos péchés, nous ne voyions rien. La nouvelle naissance ouvre les yeux. Qu'en faisons-nous ? Que faisons-nous de notre nouvelle naissance ? Que faisons-nous de notre nouvelle naissance ? Que faisons-nous de ce que Dieu a révélé dans nos vies ? Comment cela ? Comment exerçons-nous notre volonté ? Parce que, frères et sœurs, nous avons notre volonté à exercer avec ce que nous avons connu de Dieu révélé par le Saint-Esprit. La nouvelle naissance nous ouvre la possibilité d'être enseignés et de supporter la souffrance et l'humiliation qui ne manquent pas d'accompagner la découverte de la nature adamique du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. C'est une douleur. Étant convertis, étant au Seigneur Jésus-Christ, nous efforçant de marcher avec lui selon ses voies, de découvrir des pans de notre personne. Qui connaissent la vérité, mais qui n'en veulent pas. Mais cette étape, frères et sœurs, elle est nécessaire, elle demande notre coopération. Je voudrais insister là-dessus. La parole nous dit « renoncer au mensonge ». Nous avons une position à prendre. Renoncer au mensonge de penser qu'en nous il y a du bon et accepter que la vérité, qui n'est pas une somme de connaissances et de dogmes justes, mais qui est en Jésus, dans sa vie, dans sa manière d'être, puisse s'installer et produire ses fruits. Et les fruits, nous savons, les fruits de la vérité, c'est précisément la justice et la sainteté. N'est-ce pas là ce à quoi nous aspirons ? Il y a un prix à payer. Le salut est gratuit. Marcher jusqu'au bout a un prix. C'est un prix globalement d'une humiliation. Tu es cet homme-là, tu es cette femme-là. Frères et sœurs, le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité qui nous conduit dans toute la vérité. Nous nous plaignons parfois du manque d'amour entre nous, frères et sœurs, et ce dont nous avons besoin, c'est d'une injection massive de vérité. J'entends souvent, faut rien dire, faut pas blesser personne, c'est vrai. C'est difficile. Quand on voit des situations et, Seigneur, guide-nous, quel moment dire, comment dire. J'entends souvent dire, oh, il aime le Seigneur va faire grâce. Frères et sœurs, le Seigneur connaîtra-t-il ce frère, cette sœur dont on dit cela au dernier jour ? Ne soyons pas légers. Il est des paroles qui ne coûtent pas cher et puis qui maintiennent les bonnes relations. Mais nous sommes-nous pas en train de séduire ? Aimons-nous la vérité ? Sommes-nous vraiment vrais ? L'amour de la vérité. 2 Thessaloniciens 2, versets 9 et 10 nous parle de ce sujet-là. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. Pourquoi ils périssent ? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Écoutez bien. Ce que fait le Dieu bon et très bon. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Frères et sœurs, c'est le Dieu bon qui fait ça. Matthieu 24, verset 24, nous rappelle « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront donc grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Alors certains disent « Mais ce n'est pas possible de séduire les élus. » Je vous dis qu'il est possible de séduire les élus. Ça amène à traiter une question. Peut-on perdre son salut ? Puisque Jésus-Christ déclare, et je l'ai entendu tout à l'heure, « Ceux que le Père m'a donné, nul ne les arrachera de ma main. » Je confirme. Ce que le Père m'a donné, nul ne les arrachera de ma main. C'est une parole de Jésus. Je crois ce que dit Jésus-Christ, parce qu'il est le Fils de Dieu et parce qu'il est Dieu. Nul ne les arrachera de ma main. Mais si nous-mêmes, qui avons connu la vérité par la parole révélée par le Saint-Esprit, par l'Esprit de vérité, si nous-mêmes nous nous écartons une fois éclairés par notre volonté, ce n'est pas un autre, c'est nous qui nous mettons en danger. Ne tentons pas Dieu, mais craignons d'une sainte crainte. Je ne veux pas développer et je ne veux pas faire peur. Mais il faut quand même qu'on se dise les choses. Dieu est bon, il n'est pas bonbon. Il est juste, il est saint. C'est lui qui est allé à la croix. J'aborde à cette occasion comment vient le mensonge. Parce que la parole de Dieu ne pénétrait pas dans nos cœurs, parce que nos raisonnements s'y opposent. Nous disons Dieu est bon. Alors c'est vrai, on dit qu'il ne faut pas évangéliser en disant race de vipères et en prêchant l'enfer. Non ! Mais pourtant, c'est l'enjeu. Hier, lors du mariage, une petite fille de 6 ans vient me dire « Comment on peut rencontrer Dieu ?» J'étais touché. Question qui vient derrière. C'est quoi l'enfer ? Ah, vous êtes prêt à répondre à ça ? Je vais lui dire « Oh ben non, ma petite fille, t'es trop jeune, c'est pas grave. » Alors j'ai fait « J'espère que c'est le Seigneur qui m'a guidé. » Je lui ai dit ben, « Je me suis assuré qu'elle avait son papa et sa maman avec elle. » Beaucoup de situations, c'est plus difficile que ça. Elle me dit, oui, j'ai mon papa, maman, avec un grand sourire. Je dis, bon, impeccable, ça va aller pour moi, ça. Et je lui dis, toi, l'enfer, si tu as ton papa, ta maman, tu vis avec eux. Et puis, est-ce que tu imagines que tu serais séparé pour tout le temps? Tu saurais qu'ils sont là. Reste, tu le vois, tu ne pourrais pas être avec eux, séparé pour tout le temps. Elle a compris. Frères et sœurs, ça existe ces choses. Fausse doctrine. Plusieurs mouvements. Certains se disant chrétiens. Disent qu'il y aura les chrétiens qui régneront. Alléluia. Quand le Seigneur reviendra. Et qui disent pour les autres, ce sera l'anéantissement. Ils n'existeront plus. Ben finalement, ce n'est pas trop grave. C'est pas trop grave, frères et sœurs. Il y aura les privilégiés, ceux qui régneront, bon, ils auront eu du prix du grade. Et puis les autres, anéantis, c'est fini. Il n'y a pas d'enfer. Anéantissement, vous me suivez? L'enfer, c'est une existence sans fin. Hors de la présence de Dieu. Hors de la présence de Dieu. Ce n'est pas l'anéantissement. Voilà des choses qui se glissent. Ça, ce n'est pas les premières choses qu'on voit dans ces mouvements. C'est bien caché dans la doctrine. Alors Dieu, oh, la doctrine, il ne faut pas trop. Ah oui, sauf que frères et sœurs, quand on s'engage dans des mouvements, dans des choses un peu particulières, spirituellement, il se passe quelque chose. Oh, dis-moi, le pape, les doctrines, d'accord, ouais, mais non, moi je ne crois pas à tout ça. D'accord, je ne crois pas à tout ça. Mais quand même, tu entends des choses, tu lis des choses, tu lis des traductions de la Bible qui a un frère qui vient d'un mouvement, disons-le, sectaire. Mais qui ont la Bible, mais une traduction un peu... Il a eu un mot qui m'a touché, qui m'a éclairé, moi. C'est flouté. Vous voyez, flouté. C'est pas franchement... Et ça m'a répondu à une question que je me posais depuis des années, parce que j'avais une traduction de Bible qui me posait problème, que j'avais lue pendant des années, mais qui me posait problème. C'était pas faux, mais ça faisait pas d'effet dans mon cœur. Quand j'ai lu une Louis II, alors je ne fais pas de pub pour la Louis II, paf, les choses se sont éclairées. L'autre, elle était floutée. Floutée. Vous savez, la parole, elle est plus tranchante, elle est émoussée. Alors, ça ne fait rien. Ça ne fait rien, ça charcute, mais ça ne fait rien. La parole de Dieu, elle est tranchante. Mais il ne faut pas qu'elle soit floutée. L'enfer, ce n'est pas l'anéantissement. Frères, si je vous parle de ça, je ne vais pas faire Plusieurs fois, je me suis dit, il faut que je parle de tout ça. Je ne le ferai pas dans le cadre d'une prédication, éventuellement dans le cadre d'enseignement. Mais ce que je voulais vous dire ce matin, si les uns ou les autres vous êtes approchés, vous découvrez de nouvelles choses, de nouvelles révélations. Ah, vous dites quand même, ça a l'air... Mais puis vous sentez quand même un petit quelque chose. Frères et sœurs, moi je vous le dis simplement, Dieu, il a voulu les églises locales, n'en déplaise à certains, il y a mis, il y a établi une autorité, notamment avec les anciens et la responsabilité pastorale. Eh bien, allez demander quand même. Je le dis, je ne parle pas en l'air. Nous sommes, je ne vais pas dire envahis, parce que je refuse ça, ça ne rentrera pas dans l'Église, et si ça rentre, on fera sortir. Il y a trop maintenant de choses à droite, à gauche. Ah ben moi, je vais essayer ça. Et un petit coup de sabbat, et un petit coup de machin, etc. Et on rajoute au salut à des choses que Dieu a faites. Dieu a tout accompli. Oui ou non? Bon, est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter? Non, bon, ben alors. Alors, je cite quand même des choses. Parce que maintenant, ça suffit, quoi. Bon. Mouvement des témoins de Jéhovah, on voit à peu près qu'il y a des difficultés. Il y a notamment la question de l'annihilisme. Je ne rentre pas dans tout d'autres détails. Il y a un mouvement qui est reconnu par la Fédération protestante de France, les Adventistes du septième jour. Je le dis clairement. Je n'ai rien contre les personnes. Mais à partir du moment où ça touche des brebis du troupeau, eh bien écoutez, le berger, eh bien écoutez, pour l'instant, je crois que le Seigneur m'a mis là, eh bien moi, je veille les brebis. Et je dis, ben, je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas de quatrième commandement, il n'y a pas d'histoire comme ça, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas biblique. Il faut savoir quand même que ce mouvement, il a la Bible, et puis il a 17 fois plus d'écrits d'une femme qui se dit prophétesse, qui se disait prophétesse, Ellen White, et qui a ajouté tout un tas de choses. Mais c'est la vérité. Eh bien, moi, je confesse que la parole de Dieu, elle est toute suffisante pour conduire à salut, pour sanctifier et pour vivre, avoir la vie éternelle. Amen. Le mouvement parole de foi, je proclame, nous sommes des dieux, s'appuyant sur un bout de verset biblique. Donc, ce que je dis, ça s'accomplit dans ma vie. Et si ça ne s'accomplit pas, mon frère, ma sœur, c'est que tu manques de foi. Eh bien, avec ça, je repars, je suis bien, tiens. Et la souveraineté de Dieu. David, quand il s'est repenti, il a accepté la souveraineté de Dieu. Il a prié pour son enfant qui était malade. Il a intercédé, il a jeûné. Et il a bien fait. Les autres ne comprenaient rien. Parce qu'une fois qu'il est mort, il a accepté. Il a accepté la souveraineté de Dieu, il a prié de tout mon cœur. Et c'est ce que nous avons à faire, sans aucun doute. Le royaume maintenant, kingdom now, le royaume c'est maintenant. Dieu règne maintenant, c'est par les chrétiens qui vont améliorer le monde. Eh bien je vous dis que ce n'est pas comme ça. Les chrétiens sont témoins, ils ont à témoigner, ils ont lumière, ils ont à témoigner, à annoncer la vérité, parce que ça c'est leur boulot. C'est pour ça que Jésus les a envoyés. Les dominationnistes, j'en ai parlé quelques fois. Je cite des choses. Si vous voulez plus de renseignements, on pourra se revoir. Je parle encore de quelque chose. Je cite un nom. Peut-être que je vais heurter. Rick Warren. Mais je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Très prisé, y compris dans les milieux évangéliques. Y compris auprès de pasteurs, et je le dis parce que j'ai vraiment beaucoup réfléchi, je me dis, Seigneur, mais comment c'est possible, ça a été tellement douloureux, toutes ces choses. J'ai compris, je vous ai dit, je suis converti qu'il n'y a que 15 ans. Je ne m'en excuse pas, je remercie le Seigneur. Je commence à voir pourquoi il m'a pris à cet âge-là. Rick Warren a écrit des bouquins, notamment avec des stratégies de croissance des églises, etc. Il faut savoir quand même que parmi ses conseillers, il y en a un que je connais bien, Peter Drucker, le pape du management, auteur de beaucoup d'ouvrages sur la programmation neurolinguistique qui sont une manipulation, qui sont occultes, qui sont du New Age, qui préconise, je me suis arrêté, j'étais technicien de la PNL, je me suis repenti. faut arrêter, frères et sœurs. Il faut arrêter. La sophrologie pour renforcer tout ça. Qui on invoque? Qui on invoque? Frères et sœurs, nous avons toute la parole de Dieu. Je vous en conjure. Que chacun, j'ai dit, reste à sa place. Frères et sœurs, nous connaissons la vérité, c'est une grâce. C'est une grâce. Et le Seigneur nous encourage, dans la deuxième lettre de Jean notamment, je ne vais pas la lire toute entière, à marcher dans la vérité. Marcher. Marcher, c'est, qu'est-ce qu'il y a de plus simple que ça? Marcher. Ça veut dire que c'est notre quotidien, c'est dans toute situation. Ce n'est pas simplement les grands soirs. Marcher dans toute la vérité. Ça veut dire l'accepter. Il m'est arrivé il y a quelque temps un petit incident qui aurait pu être grave. Je me suis ouvert, je suis tombé sur des sabots métalliques en bricolant. Et je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? La réponse aurait pu être très simple, parce qu'il m'arrive, je reconnais. Des fois, vouloir un peu, je sais que le Seigneur doit encore travailler, mes propres forces, d'aller un peu fort. Mais là, ce n'était pas le cas. J'étais tranquille, vissais mes petits sabots, j'étais paisible, j'avais rien qui me tourmentait. Et je suis tombé, je me suis blessé, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et quelques temps après, en me remettant, c'est pas facile à décrire, mais en me remettant à ce travail, je me sentais fragile. C'est un sentiment qui ne m'était pas tellement connu. Fragile même physiquement. J'étais vraiment très prudent, quoi. Presque dans la crainte. Mais je crois que c'était juste. Je veux dire, tu es fragile. Tu es fragile. Et ça m'a amené à me confier en lui. Je me suis rendu compte à travers ce petit accident, je me dis, mais je serais tombé sur la tête, je ne serais plus là, quoi. Enfin, un truc de... Et vraiment, peut-être je vous l'exprime mal, mais je vous le dis de tout mon cœur. Je me suis senti fragile. Je me suis dit, ben Robert, tu acceptes. Tu es fragile. Et du coup, ça m'a... Je me suis dit, me mettre sous ses ailes. Je voulais vous dire, on y est bien. On y est bien. On y est bien, sous ses ailes. Et du coup, plein de choses, plein de problèmes, plein de situations, je dis, Seigneur, montre-moi, je veux bien, j'accepte. J'accepte la vérité, mes échecs, tout un tas de choses que je fais avec mes forces. Je ne veux plus de ça. Et je crois, il veut nous conduire à marcher dans la vérité. Nous connaissons la vérité, frères et sœurs, ne vous trompez pas dans mon message. Remercions le Seigneur de connaître la vérité. Mais on a encore besoin, ça ne suffit pas. On a encore besoin de toute sa grâce, de tout son amour. Je prie que notre communauté soit une communauté de fragiles, forts en Christ, qui reconnaissent qu'est-ce que je me suis planté. Mais puisque je connais la vérité, j'accepte de la recevoir. J'accepte que de temps en temps, ils me disent, mais Robert, tu es cet homme-là. On va lire, pour terminer, cette deuxième lettre de Jean. C'est-à-dire, ça fait beaucoup, toute une lettre. Elle n'est pas longue. On va la lire tout entière, parce qu'elle est complètement dans le contexte que j'ai évoqué ce matin. Deuxième lettre de Jean. L'ancien à Kyria, l'élu à ses enfants que j'aime dans la vérité, et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité, à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et l'amour. J'ai été fort réjoui, dit Jean, de trouver de tes enfants. J'ai relu quand j'ai relu ce texte. De trouver tes enfants, non, de trouver de tes enfants. Parmi tes enfants. Il y en a qui marchent dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant, ce que je te demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Je vous disais tout à l'heure. Nous avons besoin d'une injection de vérité pour réparer ce qui doit l'être en matière d'amour. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, que vous l'avez appris dès le commencement. Et on va lire entière. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas « salut ». Ah, frère, alléluia, on pense différemment, mais ça nous enrichit. Non. Car celui qui dit « salut » participe à ses mauvaises œuvres. Que nous dit Jean ? Si vous qui avez la connaissance, vous acceptez par flatterie, séduction et désir de plaire, vous recevez quelqu'un dont vous savez qu'il véhicule des doctrines qui ne sont pas justes, qu'est-ce que vous transmettez à vous qui êtes regardés comme des chrétiens affermis à des gens qui sont encore jeunes dans la foi ? Puisqu'il, lui, il l'accueille, c'est que ce ne doit pas être si faux. Frère, je vous parle de choses qui sont arrivées dans ma vie. Je ne cherche pas une excuse et je n'accuse pas les autres. Ces derniers temps, le Seigneur m'a montré que j'ai fonctionné comme ça sur des choses. Puisque un tel, qui est affermi en Christ, qui a même un ministère, dit que ce n'est pas très grave. Mais c'est ma responsabilité, parce que Dieu m'avait donné aussi des choses. Et je ne vis pas par procuration. Et je n'invite pas ici à s'isoler et à mépriser ses frères. Mais ce que nous avons reçu, acceptons-le. Nous n'avons pas tous reçu la même chose, parce qu'il donne comme il veut. Il sait ce que nous pouvons supporter, il sait ce que nous pourrons faire. Il donne comme il veut. Moi, je sais qu'il m'a donné deux choses. Parce que tu as gardé ma parole, je te garderai au jour de la séduction qui viendra sur ce monde. Et dans Jérémie, pourquoi m'appeler-t-elle continuelle ? Pourquoi ne veut-elle pas se guérir ? Voici ce que déclare l'Éternel. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Ils lutteront contre toi, mais ils ne pourront rien. Tu leur parleras, ils n'écouteront pas. Mais tu leur parleras quand même. Mais je crois que le Seigneur veut qu'on écoute, et qu'on entende, et qu'on reçoive. L'acceptation de la vérité, elle est douloureuse. Surtout sur ces questions de ce que nous avons bâti, imaginé, y compris à partir de la Bible. C'est douloureux, parce que c'est reconnaître qu'on s'est trompé lourdement. Et c'est humiliant. Mais c'est bénéfique et c'est la vraie liberté. Nous prions. Seigneur notre Dieu, je te rends grâce, Seigneur. Je te rends grâce pour ce culte que tu nous as donné de vivre ce matin, pour ce temps de louange, Seigneur, où nous avons proclamé ta seigneurie, ta souveraineté, Seigneur. Seigneur, où quelque chose dans mon cœur disait c'est juste. Seigneur, il y a ce qui sort de nos bouches, mais Seigneur, tu veux que la vérité soit au fond de nos cœurs. Viens encore ce matin, Seigneur, l'installer davantage, que tu te sentes à l'aise, Seigneur, dans nos cœurs. Seigneur, nous avons besoin, je te demande pour ma vie, pour la vie de mes frères, Seigneur. Je veux marcher dans la vérité, Seigneur. Je veux marcher dans la vérité, Seigneur. Je veux accepter quand tu me dis, y compris par la bouche d'un frère ou d'une sœur, cet homme, c'est toi. Seigneur, nous sommes fragiles, mais tu nous as fait la grâce de nous révéler la vérité. Nous ne voulons pas que ce soit en vain. Nous ne voulons pas être en opprobre et repousser, Seigneur, ceux qui déjà ne te connaissent pas, les repousser parce qu'ils ont vu en nous des choses ambiguës. Seigneur, nous voulons marcher dans la clarté. te demande ton aide, ton secours et ton assistance, Père, par le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.